Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreu. Aujourd'hui, 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille, entretien avec Bruno Sorez. Première partie, la genèse du naturisme à Marseille.
L'histoire du naturisme à Marseille. Dans le cadre de notre émission L'histoire continue, nous allons aborder un sujet très mal étudié en France, l'histoire du naturisme et plus particulièrement l'histoire du naturisme à Marseille. Et pour cette raison, je me suis entretenu avec Bruno Sorez, militant naturiste, président de l'association Naturiste Phocéenne et auteur de 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille, seul ouvrage parlant de l'histoire du naturisme dans la région et fort bien documenté. Loin des clichés où on considère les naturistes, pour ne pas dire des nudistes, comme soit des obsédés sexuels adeptes du libertinage, ou bien comme de vieux 68 ans attardés, l'histoire du naturisme dans le monde, en France et en province, est beaucoup plus riche et complexe qu'on le pense. Première partie de cette émission, c'est en même temps l'histoire du naturisme à Marseille, la genèse du naturisme à Marseille. Émission d'Éric Lebreu. Je vais te poser des questions donc, sur les origines de la pensée naturiste dans le monde et surtout à Marseille. Qu'est-ce que le naturisme? Que ça signifie? Quand ça remonte bon, les premières idées naturistes modernes, disons, on ne va pas remonter à Adam et Ève, mais plutôt à la période contemporaine. Sur quelles bases sont fondées le naturisme? Sur quels critères? Sur quels prétextes? Sur quels arguments par rapport aux oppositions de l'époque? Et ce changement d'esprit par rapport au corps.
Alors, le naturisme a une définition officielle qui a été votée en Assemblée Générale par la Fédération Française de Naturisme en 1974. C'est décrit comme étant une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun, qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect d'autrui et celui de l'environnement. Ça, c'est la définition officielle du naturisme, qui décrit assez bien l'état d'esprit et l'art de vivre que nous avons quand nous pratiquons et sommes dans un lieu naturiste. On peut être naturiste en étant habillé, à partir du moment où on est habité par cette définition qui nous caractérise dans la vie de tous les jours.
20 000 naturistes en France, dont 20 000 à Sérignan et au Cap d'Agde. Les représentants de 28 pays tiennent ici leur congrès international sur le thème de la place du naturisme dans la civilisation moderne. Un congrès de haute tenue dans le plus simple appareil.
Mais le naturisme est une question sérieuse, surtout qu'il apparaît actuellement comme étant un mouvement de civilisation qui prend de plus en plus d'importance en raison même du fait que nos sociétés actuelles coupent l'homme de tout contact avec la nature et d'autre part, même si on peut dire, supprime les dialogues directs et hors de fonction entre êtres humains.
Extrait de reportage de l'ORTF du 5 août 1974 sur le Congrès international du naturisme au Cap d'Agde. Intervention du président de la Fédération française du naturisme de l'époque.
Ça n'a rien à voir avec la sexualité ou l'exhibitionnisme.
Alors effectivement, nous ne sommes pas là pour critiquer les us et coutumes des uns et des autres, mais ce qui se passe dans un cadre privé au sein d'un couple est une chose, c'est privé. Et nous, en tant que naturistes, nous pratiquons la nudité en commun avec respect et la sexualité est d'ordre privé, donc ça n'a rien à voir avec le naturisme, qui est juste... profiter de la nature dans l'état de nudité, sans a priori, en toute convivialité.
Un naturiste qui veut ou
bien
c'est une sélection.
Bien sûr, devient naturiste qui veut. La sélection se fait d'ailleurs d'elle-même, en ce sens que dans le milieu naturiste, il n'est pas possible d'admettre des personnes qui feraient en sorte que le milieu naturiste n'assure pas toutes les conditions nécessaires de sécurité et de moralité pour que nos familles naturistes viennent. Parce que faisant du naturisme, nous venons dans le milieu naturiste par famille entière et avec nos enfants. Cela implique effectivement qu'il y a un certain nombre de règles de moralité courante qui soient strictement respectées.
Alors cela signifie-t-il qu'il y a une police parmi les naturistes?
Non, s'il y a une police parfois parmi les naturistes, elle n'apparaît certainement pas. Il y a surtout une autodiscipline.
Intervention du président de la Fédération française du naturisme lors du même reportage de l'ORTF du 5 août 1974.
Mais il y a eu des études d'ordre médical, non, qui ont promu le naturisme.
Alors effectivement, la genèse du naturisme en France et plus particulièrement en Europe concerne le milieu médical, puisque la plupart des précurseurs du naturisme étaient des médecins, des docteurs, des chirurgiens. Notamment, nous avons le docteur Joseph Poussel à Marseille, qui a été un des précurseurs du naturisme, qui était également chirurgien, avec un autre docteur qui s'appelait le docteur Géo Beltrami, qui était dentiste. Et le naturisme, en fait, à la base, a été mis en place par des thérapeutes qui avaient pour but de lutter contre le rachitisme et la tuberculose chez les enfants. Au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que la pratique de la nudité en pleine nature, en montagne, à l'air libre, favorisait la guérison.
Et une des conséquences aussi, c'est la guerre de 14-18, où par rapport à des soldats qui avaient été gazés ou fortement blessés, cette pratique-là avait été remise à l'ordre du jour.
Ah oui, tout à fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart des précurseurs du naturisme, en France en tout cas, étaient tous des blessés de la vie, soit des blessés de guerre, soit des problèmes de santé dus à une enfance, on va dire, avec une alimentation pas suffisamment riche. Et donc, c'est des gens qui avaient des problèmes de santé et le fait de pratiquer la nudité en pleine nature, isolée de la pollution, loin des villes, a favorisé grandement leur guérison, notamment que tu parles des grands gazés de la Première Guerre mondiale. Il y avait le docteur Fouvra de Lastour qui a été gazé à 95% et qui, par une pratique sportive en totale nudité, en montagne, a été guéri.
Je pense que le naturisme fait partie de la qualité de la vie dont on parle beaucoup à notre époque. Personnellement, je le ressens comme une rupture entre la vie de dingue que l'on est obligé de mener pour subsister et le retour à une vie simple où on prend le temps de respirer.
Témoignage d'une femme naturiste interviewée dans un centre de vacances dans le Rhône, diffusé par France Région Lyon le 13 mai 1975.
Il y avait aussi, dans ce renouveau du naturisme au premier quart du XXe siècle, aussi des restrictions, pas de restrictions alimentaires, mais enfin un régime alimentaire. On parle de végétarien.
Alors oui, le végétarisme fait partie aussi des concepts fondamentaux des premiers naturistes des années 20, des années 1920-1930, parce que ça rentrait dans le cadre d'une hygiène de vie. Le naturisme, à cette époque-là, était très proche de tout ce qui était retour à une vie équilibrée avec une hygiène de vie très suivie et une alimentation saine, que les gens sous-estimaient les légumes, sous-estimaient l'alimentation en fruits. Les naturistes ont voulu remettre en avant ce type d'alimentation naturelle et on va dire plus équilibrée.
Je trouve que c'est agréable de pouvoir être au soleil, pouvoir vivre librement, quoi. Bord de la mer, on peut rentrer dans l'eau et dans l'eau, au soleil, c'est tout.
Et ça ne nous gêne pas de vivre nu, mais en société.
Non, absolument pas.
Parce qu'on ne sait pas que le naturisme, finalement, c'est plutôt le côté sauvage. Enfin,
pas du tout, non. Au contraire, je trouve que c'est mieux de vivre avec d'autres gens. Ça fait une expérience beaucoup plus intéressante. On peut vivre normalement, mais avec d'autres gens, comment dire. Pour avoir les rapports qu'on a normalement, mais être nu, c'est tout.
Et vous ne pensez pas que les gens ont toujours un peu une réaction de... Des réactions qu'ils ont habituellement dans la vie civile, des attitudes.
Oui, exactement. Ils sont moins. Ils sont beaucoup plus libéraux, je trouve, beaucoup plus. Ils pensent moins à s'observer les uns les autres, déjà, je trouve. Mais sinon, on a les mêmes réactions. Hein.
Témoignage d'une femme naturiste diffusé par l'ORTF le 5 août 1974.
On peut se douter quand même que le naturisme n'est pas venu comme ça avec une grande approbation. Il y a eu des fortes hostilités vis-à-vis du naturisme. Bon, de la part des religieux, peut-être de la part d'autres courants. Alors, quel était leur argument ?
Alors oui, tout à fait, mais ça c'est un peu un préjugé qu'on peut avoir avec notre regard actuel, en se disant que vu les mentalités de l'époque, ils étaient très critiques. Mais c'est pas tout à fait le cas en fait, et ça c'est très intéressant à souligner, c'est que les articles de l'époque étaient au contraire plutôt assez positifs, parce que en fait ces précurseurs dont je vous parlais tout à l'heure étaient des gens assez bourgeois, de la haute société, qui avaient des relations au niveau des autorités, au niveau des maires. Ils avaient une parole qui était écoutée, c'est-à-dire que c'était des docteurs, donc comme je vous ai dit, et ces gens-là étaient respectés. Donc du coup, il y avait moins dans les articles de presse, à part des articles de presse, on va dire, un petit peu people, dans les articles de presse concernant les magazines sportifs ou des magazines médicaux, c'était des gens qui avaient une parole respectable et même certains articles faisaient la promotion du naturisme. Donc oui, ils avaient quand même des opposants. Il y a des articles de La Croix qui étaient vraiment très virulentes. Il y avait des articles de magazines... notoriété publique qui s'appelait Gringoire, qui était pétainiste, qui était très virulent vis-à-vis des naturistes. C'est un petit peu marrant, si on peut utiliser ce mot, de souligner que la plupart des articles virulents et opposés au naturisme se sont retrouvés proches de la collaboration.
Et l'Église catholique, qui est quand même un poids très très important dans ces Françaises du début du XXe siècle, dont on sait que, bon, on n'est pas forcément une adepte de la nudité, à moins qu'il y ait eu quelques exceptions peut-être.
Alors effectivement, il y a eu des exceptions, et notamment à Marseille, avec l'abbé Urbain Legret, qui est le premier à mettre en place la nudité en commun à Marseille en 1907, dans le cadre de la lutte contre le rachitisme et la tuberculose chez les enfants, en amenant des enfants de son diocèse, avec l'accord de ses supérieurs et l'accord des parents, pratiquaient la nudité dans les calanques, notamment du côté des Goudes et du côté de Sugiton, dès 1907 donc, du coup. Et ces enfants-là, alors l'histoire elle est belle, parce qu'on connaît la suite, qu'à l'heure actuelle on pourrait supposer des histoires peu reluisantes, mais finalement ces enfants, quand ils sont devenus grands, qui se sont installés dans la vie, cette expérience vécue avec cet abbé leur a tellement plu qu'ils ont créé la première association naturiste de France en 1930, qui s'appelait les Naturistes de Provence, et cette association a vécu jusqu'en 2001, où elle a été dissoute.
Alors il me semble qu'il n'y a pas que cet abbé qui a promu le naturisme, alors contrairement aux idées reçues, n'était pas qu'un abbé hors norme ou marginal.
Il y en a eu un certain nombre, oui, et c'est étonnant d'ailleurs, parce que ces personnes-là ne se cachaient pas du tout de leurs supérieurs. Il y a eu un enfant qui s'appelait, alors je ne me rappelle plus, je le cite dans le livre, et cet enfant est devenu également curé, qui a pratiqué des bains de soleil avec cet abbé. Et cet enfant devenu abbé a fréquenté un centre naturiste à Marseille qui s'appelait les Libres Culturistes de Provence, qui a existé de 48 à 1980, qui a déménagé trois fois. Et cet abbé fréquentait ce centre-là, un centre géré par des anarchistes d'ailleurs, donc c'était un tableau assez marrant, un abbé qui fréquente un centre naturiste géré par des anarchistes russes, dont le gérant a été un résistant dans le maquis de Barème lors de la Seconde Guerre mondiale.
C'est vrai que là, on revenait plutôt aux anarchistes, parce qu'il savait qu'il y avait aussi un courant anarchiste au début du XXe siècle qui promouvait le naturisme aussi.
Oui, effectivement, parmi les précurseurs du naturisme, nous avons parlé des médecins, le courant médical qui est très fort dans les origines du naturisme. Il y a également les anarchistes qui ont créé des communautés avant que ne soient créés les centres de vacances naturistes que nous connaissons aujourd'hui. Des communautés qui ont vécu plus ou moins longtemps. Celle qui a le plus vécu, c'est Monte Verita, en Suisse, de 1900 à 1925. Donc les anarchistes sont les précurseurs, parmi les précurseurs du naturisme, dont le plus célèbre est peut-être Élisée Reclus, un géographe de génie français qui est reconnu pour être le précurseur du naturisme en Europe.
Je crois que ceux qui veulent vivre nu, faire un retour à la nature, doivent pouvoir le faire librement et qu'il n'appartient pas à ceux dont je suis, les textiles, de leur interdire de le faire en sens inverse. Je crois qu'il ne faut pas non plus que les naturistes imposent aux autres d'être nus. Je crois qu'il faut la liberté. Je crois que la liberté se conçoit bien avec des espaces réservés aux uns aux autres. Je vous dis sans ségrégation parce que le soir, tout le monde doit pouvoir se retrouver normalement.
Témoignage d'un textile, c'est-à-dire que d'une personne habillée, au moment du congrès international de naturisme du Cap d'Agde, diffusé par l'ORTF le 5 août 1974.
Alors, c'est vrai que si on revient, on reste toujours un peu au début du XXe siècle, des 25 premières années du XXe siècle, il y avait en France une grosse germanophobie, bon, pour des raisons évidentes, historiques, depuis la guerre des 70. Or, le naturisme était né plutôt dans les pays germaniques, en Allemagne. Quel était le rapport du naturisme par rapport au fait que c'était un produit d'importation allemande? Comment c'était perçu?
C'est vrai que dans mon livre, je prends un peu le contre-pied de ce qu'on dit la plupart du temps, et on dit que le naturisme est issu de l'Allemagne. C'est pas, je dis pas que c'est faux, mais disons que c'est plus compliqué que ça en fait. Le naturisme a plusieurs sources, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure. Le naturisme avec Élisée Reclus remonte à 1860. En France, nous avions en fait le concept de naturisme, notamment au niveau de la médecine, date de 1762, avec un étudiant belge qui étudiait la médecine à Montpellier et qui a mis en place la théorie de la médecine naturiste, qui avait pour but de remettre le corps au sein de la nature, prendre pour guide la nature. En fait, naturisme, à la base, sa définition première, c'est prendre pour guide la nature. Progressivement, on s'est rendu compte que la nudité totale était bénéfique. Si vous voulez, le concept même de naturisme a pour origine la France. Mais c'est en Allemagne que ça s'est fortement développé. En 1920, il y avait 300 000 adeptes de naturisme, répartis en à peu près 3 associations. Et dès 1920, le naturisme était légal en Allemagne, partout, au bord des rivières, plages. Après, ça s'est compliqué, effectivement, ça a été interdit en 1933 sous le Troisième Reich par Hitler. En France, c'est vrai qu'on regardait ça avec envie, puisque en France, en 1920-1930, il était hors de question d'être nu partout sur les plages. Et c'est vrai qu'en France, on regardait les Allemands avec convoitise. Et en Allemagne, la place du sport était très importante dans le milieu naturiste, ce qui n'était pas forcément le cas en France. Les Français, les précurseurs, ont voulu prendre exemple sur les naturismes allemands, dans le sens où il fallait mettre le corps en activité,
oui,
pour faire du sport, pour se maintenir, pour retrouver la santé. Les Français se sont vite rendus compte de la dérive qui s'est instituée progressivement en Allemagne, parce que les associations allemandes de l'époque étaient toutes politisées. Il y avait des associations ouvertement communistes, des associations ouvertement bourgeoises de droite, des associations socialistes, et même des associations eugénistes antisémites.
Ou en Asie pour la régénération du corps.
Oui, il y avait des associations proches des idées nazies, même avant que le nazisme naisse, avec un refus clair et écrit des juifs au sang que membres.
Ce qui explique que les nazis avaient revenu sur l'international du naturisme, mais dans un sens plutôt renforcement de la race, et pas dans un sens plutôt humaniste.
Après, je suis en train de lire une thèse passionnante de Marc Cluet sur l'histoire du naturisme en Allemagne de cette époque-là. Un historien donc de Strasbourg qui a fait une thèse de plus de 1000 pages sur le sujet. Et d'après ses recherches, l'aspect antisémite du naturisme allemand des années 30 est quand même très minoritaire dans les associations. Et pour preuve, toutes les associations et tous les magazines des années 30 et avant, magazines naturistes allemands, ont toutes été interdits. Sont tous arrêtés en 1933. Il y a d'autres magazines qui sont nés par la suite, avec l'autorisation des autorités. Et là, du coup, c'était en accord avec le nazisme. Oui. Mais c'était une obligation.
Je crois que les Nordiques sont beaucoup plus fervents de naturisme.
Non, le pays dans lequel le naturisme est numériquement le plus important, c'est l'Allemagne fédérale. Ce ne sont pas les pays nordiques, c'est un mythe qu'il faut détruire absolument. Ensuite, effectivement, vient la France, qui est surtout le pays qui reçoit les naturistes au moment des vacances.
Intervention du président de la Fédération française du naturisme lors du même reportage de l'ORTF du 5 août 1974.
Tu avais dit qu'il y avait des associations communistes naturistes. Comment était perçu le naturisme dans le milieu des partis ouvriers, socialistes et communistes? Quelle était leur base, leur principe?
Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en France, il y avait un précurseur du naturisme qui s'appelait Quiéné de Monjo, qui était reconnu pour être l'aristocrate du naturisme. C'était un peu son surnom. Il était issu de la haute bourgeoisie. Pour lui, le naturisme se devait d'être élitiste. Pour lui, le naturisme, c'était obligatoirement, au vu de l'époque, en 1930-1920, il fallait avoir un certain standing social pour comprendre la philosophie de la nudité en commun et qu'il n'y ait pas de débordement. Et donc, du coup, c'était restreint à une certaine élite. Et donc, pour contrebalancer cela, le Parti communiste français de l'époque, en 1932, a créé un centre naturiste pour ouvriers. Ça s'appelait le camp de Chevreuse. Chevreuse, C-H-E-V-R-E-U-S-E. Alors, ce qui est marrant à noter, et là je vais peut-être un peu vous perdre, c'était que c'était un centre naturiste avec maillot obligatoire.
D'accord, oui, d'accord. Naturisme et maillot, pas tout à fait nudité.
C'était un naturisme hygiéniste, c'est-à-dire un naturisme en adéquation avec les valeurs d'hygiène, de sport, d'alimentation saine, mais sans nudité totale.
Et ni même la nudité pour montrer l'égalité des sexes et des classes, hein.
À l'époque, il y avait, comme je vous ai dit, le naturisme à la base a été un concept médical qui n'inclut pas la nudité intégrale. Donc, du coup, il y avait des centres naturistes non gymniques, c'est-à-dire sans nudité intégrale, non gymnique ou avec un maillot obligatoire, et des centres naturistes gymniques. C'est de là qu'on a mis en place le terme de nudisme pour éviter les quiproquos, du coup.
D'accord, on voit donc la différence entre naturisme et nudisme. Alors bon, là, c'est Bruno Soares que je suis en train d'interviewer, qui a écrit un ouvrage, je précise, « 120 ans du naturisme à Marseille » que peut toujours trouver sur commande.
Oui, sur commande, à la librairie, notamment de la librairie du Prado, à Mazargues, ou 11 avenue de Mazargues, je crois. Sur le site internet, on peut le commander directement.
Voilà. Bah, je te remercie pour cette première partie de l'émission, très intéressante pour les non-initiés de l'histoire du naturisme.
Come on.
pu entendre des extraits du film Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud, qui était sorti en 1964. Vous avez pu entendre des extraits du reportage réalisé par l'ORTF le 5 août 1974 à l'occasion du Congrès international du naturisme au Cap d'Agde. Et vous avez pu entendre aussi un extrait d'un reportage de France Région Lyon sur un centre de vacances dans le Rhône, reportage qui a été diffusé le 13 mai 1975. C'était 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille, première partie, la genèse du naturisme à Marseille.
C'était l'histoire continue et permanente, une émission proposée et animée par Éric Lebreu sur les ondes de Radio Galère, 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.